Volume 2, Appendice, Section 15, Évolution cyclique et karma. C'est l'évolution spirituelle de l'homme intérieur et immortel qui constitue la doctrine fondamentale des sciences occultes. Pour comprendre, même approximativement, un pareil processus, l'étudiant doit croire, petit a, à la vie universelle une, indépendante de la matière ou de ce que la science considère comme matière, et, petit b, aux intelligences individuelles qui animent les diverses manifestations de ce principe. Le professeur Huxley ne croit pas à la force vitale. D'autres savants y croient. Le livre du docteur J. H. Hutchinson Stirling, intitulé « As regards protoplasme », n'a pas peu maltraité cette négation dogmatique. La décision prise par le professeur Bill est aussi en faveur du principe vital et les conférences du docteur B. W. Richardson sur l'éther nerveux ont été assez souvent citées. Les opinions sont donc partagées. La vie une est en relation étroite avec la loi une qui gouverne le monde de l'être, karma. Exotériquement, cela naît au sens littéral du mot que l'action, ou plutôt la cause qui fait naître l'effet. Ésotériquement, c'est une toute autre chose, dans ses effets moraux à grande portée. C'est l'infaillible loi de rétribution. Dire à ceux qui ignorent la réelle signification, les caractéristiques et la redoutable importance de cette loi éternelle et invariable qu'aucune définition théologique d'une divinité personnelle ne peut donner une idée de ce principe actif et impersonnel et pourtant toujours présent, serait parler en vain. On ne peut non plus l'appeler providence, car pour les théistes, au moins pour les chrétiens protestants, la providence se plaît à être une personne du sexe mâle, tandis que pour les catholiques romains, c'est un pouvoir féminin. La divine providence, nous dit Wogan, tempère ses bénédictions pour leur assurer un meilleur effet. En effet, il les tempère, ce que karma, principe asexué, ne fait pas. D'un bout à l'autre des deux premières parties de cet ouvrage, nous avons montré qu'au premier frissonnement de la vie renaissante, Svabhava, le rayonnement changeant des ténèbres immuables inconscientes dans l'éternité, passe, à chaque nouvelle renaissance du cosmos, de l'état d'inaction à un état d'intense activité, qu'il se différencie et commence alors son œuvre au cours de cette différenciation. Cette œuvre, c'est karma. Les cycles sont aussi subordonnés aux effets que produit cette activité. L'unique atome cosmique devient 7 atomes sur le plan de la matière, et chacun d'eux est transformé en un centre d'énergie. Ce même atome devient 7 rayons sur le plan de l'esprit et les 7 forces créatrices de la nature rayonnant de l'essence racine suivent l'une la voie de droite, l'autre celle de gauche, séparées jusqu'à la fin du kalpa et pourtant étroitement enlacées. Qu'est-ce qui les unit ? Karma. Les atomes émanés du point central émanent à leur tour de nouveaux centres d'énergie qui, sous le souffle potentiel de Foha, commencent leur œuvre du dedans au dehors et multiplient d'autres centres inférieurs. Ceux-ci, au cours de l'évolution et de l'involution, forment à leur tour les racines ou la cause génératrice de nouveaux effets, depuis les mondes et les globes habités par l'homme, jusqu'aux genres, aux espèces et aux classes de tous les 7 règnes dont nous ne connaissons que 4. En effet, comme le dit le livre des aphorismes de Tsongkhapa, les ouvriers bénis ont reçu le Tian Kam dans l'éternité. Tian Kam, c'est le pouvoir ou le savoir qui permet de diriger l'impulsion de l'énergie cosmique dans le sens voulu. Le véritable bouddhiste, tout en ne reconnaissant aucun dieu personnel, aucun père, aucun créateur du ciel et de la terre, n'en croit pas moins à l'existence d'une conscience absolue, Adi-Bouddhi, et le philosophe bouddhiste sait qu'il y a des esprits planétaires, les Dhyan Shohan. Cependant, bien qu'il admette des vies spirituelles comme celles-ci sont temporaires dans l'éternité, elles n'en sont pas moins elles-mêmes, d'après sa philosophie, la Maya du jour, l'illusion d'un jour de Brahma, d'un court Manvantara de 4 320 millions d'années. Le Yin-Sin n'est pas fait pour servir à l'élaboration de théories humaines, car le Seigneur Bouddha a strictement interdit toute recherche de ce genre. Si les Dian Shuan et tous les êtres invisibles, c'est-à-dire les sept centres et leurs émanations directes, les centres mineurs d'énergie, sont le reflet direct de la lumière une, les hommes sont pourtant très éloignés de ceci, puisque le cosmos visible tout entier est constitué par des êtres produits par eux-mêmes, les créatures de karma. Considérant donc un dieu personnel comme n'étant qu'une ombre gigantesque jetée sur le vide de l'espace par l'imagination des hommes ignorants, les bouddhistes enseignent que deux choses sont objectivement éternelles, à savoir l'akasha et le nirvana. Extrait du bouddhisme sous forme de catéchisme par H. S. Olcott, président de la Société théosophique. Et qu'en réalité, les deux ne font qu'un et ne constituent qu'une maya lorsqu'ils sont divisés. Citation. Tout est sorti de l'akasha ou de svabhava sur notre terre, conformément à une loi de mouvement qui lui est inhérente et après une existence d'une certaine durée disparaît. Rien n'est jamais sorti de rien. Les bouddhistes ne croient pas au miracle. Aussi nient-ils la création et ne peuvent concevoir un créateur. Fin de citation. Si l'on demandait à un brahman védantin de la secte Advaita s'il croit à l'existence de Dieu, il répondrait probablement comme l'on a répondu à Jacques Olliot : je suis moi-même Dieu. Tandis qu'un bouddhiste, surtout un cingalais, se bornerait à rire et à répondre : il n'y a ni Dieu ni création. Pourtant, la racine même de la philosophie des Advaitins comme des bouddhistes instruits est identique, et ils ont au même degré le respect de la vie animale, car ils croient, les uns comme les autres, que toute créature sur terre, si petite et si humble qu'elle puisse être, est une immortelle portion de la matière immortelle, le mot matière ayant pour eux une toute autre signification que celle qu'il a pour le chrétien ou le matérialiste, et que toute créature est soumise au karma. La réponse du brahman se serait présentée à l'esprit de n'importe quel philosophe ancien, kabbaliste ou gnostique des premiers jours. Elle renferme l'esprit même des commandements delphiques et kabbalistiques, car la philosophie ésotérique a résolu, il y a des siècles, le problème de ce que l'homme était, est et sera, son origine, son cycle de vie, d'une interminable durée par ses incarnations ou ses renaissances successives, et son absorption finale dans la source où il a pris naissance. Ce n'est pourtant pas à la science physique que nous pourrons jamais demander de déchiffrer pour nous l'homme cette énigme du passé ou du futur, puisqu'aucun philosophe ne peut même nous dire ce qu'est l'homme, tel que le connaissent la physiologie et la psychologie. Ne sachant si l'homme était un dieu ou une bête, la science l'a maintenant rattaché aux bêtes et le fait dériver d'un animal. Assurément, la tâche d'analyser et de classer l'être humain en tant qu'animal terrestre peut être confiée à la science, pour laquelle les occultistes, plus que tous les autres hommes, ont vénération et respect. Ils reconnaissent son champ de recherche, ainsi que le travail merveilleux qu'elle a accompli, les progrès faits en physiologie, et même jusqu'à un certain point en biologie. Mais la nature interne de l'homme, spirituelle, psychique ou même morale, ne peut être livrée à la merci d'un matérialisme intransigeant. En effet, la plus haute philosophie psychologique de l'Occident n'est elle-même pas capable, en raison de son insuffisance actuelle et sa forte tendance à l'agnosticisme, de rendre justice à l'homme interne et surtout à ses capacités et à ses perceptions supérieures et à ses états de conscience sur la route desquels des autorités comme Mill ont tracé une forte ligne de démarcation en disant « Jusque-là, tu n'iras pas plus loin ». Aucun occultiste ne nierait que l'homme, de même que l'éléphant et le microbe, le crocodile et le lézard, le brin d'herbe et le cristal, ne soit dans sa constitution physique le simple produit des forces évolutives de la nature au cours d'une série interminable de transformations, mais il présente la chose sous une autre forme. Ce n'est pas contre les découvertes zoologiques et anthropologiques basées sur les restes fossiles de l'homme et de l'animal que se révoltent intérieurement tous les mystiques et tous ceux qui croient à une âme divine, mais seulement contre les conclusions superflues, qui sont le résultat de théories préconçues et que l'on fait cadrer avec certains préjugés. Les prémices des savants peuvent être, ou n'être pas toujours juste, et comme certaines de ces théories n'ont qu'une vie courte, les déductions que l'on en tire sont fatalement partiales avec les évolutionnistes matérialistes. C'est pourtant sur la foi d'une autorité aussi éphémère que la plupart des savants sont comblés d'honneur, alors qu'ils le méritent le moins. Note. Nous renvoyons ceux qui considéreraient cela comme une impertinence ou un manque d'égard envers la science acceptée à l'ouvrage du Dr. James Hutchinson Stirling, intitulé « As Regard Protoplasm », ouvrage qui est une défense du principe vital contre les molécularistes, Huxley, Tyndall, Vogt et compagnie, et les invite à examiner s'il est vrai ou non que, bien que les prémices scientifiques puissent n'être pas toujours correctes, elles n'en sont pas moins acceptées pour combler un vide ou une lacune dans une marotte matérialiste à laquelle on tient. Parlant du protoplasme et des organes de l'homme, tels que les considère Huxley, l'auteur dit « Il est donc probable qu'en ce qui concerne la continuité de la force, de la forme ou de la substance dans le protoplasme, nous avons constaté suffisamment de lacunes. » Oui, Huxley peut être lui-même cité comme témoin à cet égard. Il n'est pas rare que nous trouvions dans ses essais l'admission de probabilité, là où la certitude seule serait à sa place. Il dit par exemple « Il est plus que probable que lorsque le monde végétal sera entièrement exploré, nous constaterons que toutes les plantes sont en possession des mêmes pouvoirs. » Lorsqu'une conclusion est catégoriquement annoncée, il est assez décevant de s'entendre dire comme ici que les prémices sont encore à réunir. Voici encore un autre passage dans lequel on le voit saper sa propre base sous ses propres pieds. Après nous avoir dit que tous les genres de protoplasmes sont formés de carbone, d'hydrogène, d'oxygène et d'azote en union très complexe, il ajoute « À cette combinaison complexe dont la nature n'a jamais été déterminée avec exactitude, on a donné le nom de protéine. » Cela constitue clairement l'identification par Huxley du protoplasme et de la protéine. Et ce que l'on dit de l'un devant être nécessairement vrai pour l'autre, il en résulte qu'il admet que la nature du protoplasme n'a jamais été déterminée avec exactitude, et que même à ses yeux, cette cause est encore sous jugement. Cette admission est encore fortifiée par ces mots. Si nous employons ce terme « protéine » avec toute la prudence que réclame notre ignorance relative de la chose qu'il représente, etc., etc. C'est l'éminent Huxley, le roi de la physiologie et de la biologie, que nous surprenons à jouer à Colin Maillard avec les prémices et les faits. Après cela, de quoi n'est donc pas capable le menu fretin de la science ? Fin de la note. Pour que le fonctionnement de karma, lors des renouvellements périodiques de l'univers, devienne plus évident et plus intelligible pour l'étudiant, lorsqu'il arrive à l'origine de l'homme et à son évolution, il faut qu'il étudie maintenant avec nous la portée ésotérique des cycles karmiques sur l'éthique universelle. La question est de savoir si ces mystérieuses divisions du temps, appelées yugas et kalpas par les hindous, et auxquelles les grecs ont donné le nom si bien approprié de cycles, anneaux ou cercles, de savoir, dis-je, si ces divisions ont une portée sur la vie humaine ou un rapport direct avec elle. La philosophie exotérique elle-même explique que ces perpétuels cycles de temps reviennent sans cesse, périodiquement et intelligemment, dans l'espace de l'éternité. Il y a des cycles de matière, des cycles d'évolution spirituelle et des cycles de race, de nations et d'individus. Les théories ésotériques ne nous permettraient-elles pas d'arriver à une connaissance plus approfondie de leur fonctionnement ? Note, The Cycle of Matter est le nom d'un essai écrit par le professeur Winchell en 1860. Fin de la note. Cette idée est magnifiquement exprimée dans un ouvrage scientifique fort habile. Citation. La possibilité de s'élever jusqu'à la compréhension d'un système de coordination dépassant tellement, dans le temps et dans l'espace, le champ des observations humaines, est une circonstance qui met en lumière la faculté que possède l'homme de transcender les limites de la matière changeante et inconstante et affirmer sa supériorité sur toutes les formes insensibles et périssables d'être. Il existe dans la succession des événements et dans les relations qu'ont entre elles les choses coexistantes une méthode dont l'intelligence de l'homme se rend compte et s'en servant comme d'un indice s'il parcourt des siècles d'histoire matérielle passée ou future que l'expérience humaine ne peut jamais certifier. Les événements germent et se développent. Ils ont un passé qui se rattache à leur présent, et nous croyons, avec une confiance bien justifiée, qu'il y a en réserve un avenir qui sera de même relié avec le présent et avec le passé. Cette continuité et cette unité de l'histoire se répètent sous nos yeux, dans toutes les phases concevables du progrès. Les phénomènes nous fournissent une base pour la généralisation des deux lois qui sont réellement des principes de divination scientifique, qui seuls permettent au mental humain de pénétrer dans les archives scellées du passé et sur les pages non ouvertes de l'avenir. La première de ces lois est la loi d'évolution, et pour la définir en des termes qui répondent à notre but, la loi de succession corrélative ou d'histoire organisée dans l'individu, démontrée par les phases changeantes de tous les systèmes de résultats qui mûrissent, ces pensées évoquent en notre présence le passé sans limite et le futur sans limite de l'histoire matérielle. Elles semblent presque ouvrir un horizon infini et doter l'intellect humain d'une existence et d'une faculté exempte des limites imposées par le temps, l'espace et la causalité limitée, et l'élever jusqu'à une sublime conception de la suprême intelligence qui réside dans l'éternité. Fin de citation, extrait de World Life. D'après les enseignements, Maya, l'apparence illusoire du défilé des événements et des actions sur cette terre, change et varie suivant les nations et les localités, mais les caractéristiques dominantes de la vie de chaque homme s'accordent toujours avec la constellation sous laquelle il est né, ou pourrions-nous dire avec les caractéristiques du principe qui l'anime ou de la divinité qui y préside, soit que nous l'appelions celle-ci un Dian Shoan, comme en Asie, ou un archange, comme le font les églises grecques et latines. Dans l'ancien symbolisme, c'était toujours le soleil. Néanmoins, c'était du soleil spirituel et non du soleil visible que l'on entendait parler, qui était supposé envoyer les principaux sauveurs et avatars. De là vient le chaînon qui relie entre eux les Bouddhas, les avatars et tant d'autres incarnations des suprêmes sept. Plus il s'approche de son prototype dans le ciel, et mieux cela vaut pour le mortel dont la personnalité a été choisie par sa propre divinité personnelle, entre parenthèses le septième principe, pour sa demeure terrestre. En effet, à chaque effort de volonté tendant vers la purification et l'union avec ce Dieu-soi, un des rayons inférieurs se brise, et l'entité spirituelle de l'homme est entraînée de plus en plus haut vers le rayon qui remplace le premier, jusqu'au moment où de rayon en rayon, l'homme intérieur est plongé dans le rayon unique, le plus haut, du soleil père. Donc, les événements de l'humanité sont coordonnés avec les formes des nombres, puisque les unités simples de cette humanité proviennent toutes de la même source, le soleil central et son ombre, le soleil visible. En effet, les équinoxes et les solstices, les périodes et les diverses phases de la carrière solaire, exprimées astronomiquement et numériquement, sont les symboles concrets de la vérité éternellement vivante, bien qu'ils paraissent des idées abstraites aux mortels non initiés. Cela explique aussi les extraordinaires coïncidences numériques avec les relations géométriques signalées par plusieurs auteurs. Oui, notre destinée est écrite dans les étoiles. Seulement, plus l'union est étroite entre le reflet mortel, l'homme et son céleste prototype, et moins sont dangereuses les conditions extérieures et les réincarnations subséquentes auxquelles ni les Bouddhas ni les Christs ne peuvent échapper. Ce n'est pas de la superstition et encore moins du fatalisme. Ce dernier implique l'action aveugle d'une puissance plus aveugle encore, mais l'homme est un agent libre durant son séjour sur Terre. Il ne peut échapper à sa destinée régente, mais il a le choix entre deux sentiers qui le conduisent dans cette direction, et il peut atteindre le but de misère, si c'est celui qui lui est réservé, soit sous les vêtements blancs de neige du martyr, soit sous l'accoutrement souillé d'un volontaire de l'iniquité. Il existe en effet des conditions externes et internes qui affectent le rôle de notre volonté sur nos actions, et nous sommes libres d'obéir aux unes ou aux autres. Ceux qui croient à karma doivent croire à la destinée que, du berceau à la tombe, chaque homme tisse fil par fil autour de lui comme une araignée tisse sa toile, et cette destinée est dirigée soit par la voix céleste de l'invisible prototype qui est en dehors de nous, soit par notre plus intime homme astral ou homme intérieur, qui n'est que trop souvent le mauvais génie de l'entité incarnée nommée homme. Ces deux influences conduisent l'homme extérieur, mais l'une d'elles doit prévaloir, et dès le début du conflit invisible, l'austère et implacable loi de compensation entre en jeu et agit en suivant fidèlement les fluctuations de la lutte. lorsque le dernier fil est tissé et que l'homme semble être enveloppé dans le filet de ses propres actes, il se trouve complètement sous l'empire de cette destinée faite par lui-même. Elle le fixe alors, comme une coquille inerte, sur le roc immuable, ou l'emporte comme une plume dans le tourbillon soulevé par ses propres actions, et cela c'est karma. Un matérialiste, traitant des créations périodiques de notre globe, a exprimé la chose en une phrase unique. Citation. Tout le passé de la Terre n'est autre chose qu'un présent déroulé. Fin de citation. L'auteur de cette phrase est Büchner, qui était loin de se douter qu'il répétait un axiome des occultistes. Il est très vrai aussi, comme le fait remarquer Burmeister, que, citation, « les recherches historiques sur le développement de la Terre ont prouvé que maintenant et alors reposent sur la même base. Le passé s'est développé de la même façon que le présent se déroule, et les forces en activité sont toujours restées les mêmes. » Fin de citation, cité dans « Force et matière » de Büchner. Les forces, leur noumen plutôt, sont les mêmes naturellement. C'est pourquoi les forces phénoménales doivent aussi être les mêmes. Mais comment quelqu'un peut-il être si sûr que les attributs de la matière ne se sont pas modifiés sous l'action de l'évolution protéenne? Comment un matérialiste peut-il affirmer avec tant de confiance que le fait Ross Masler que, citation, « cette éternelle conformité dans l'essence des phénomènes établit avec certitude que le feu et l'eau possédaient de tout temps les mêmes pouvoirs et les posséderont toujours. » Fin de citation. Qui sont ceux qui obscurcissent les questions par des paroles sans savoir? Et où étaient les Huxley et les Büchner lorsque les fondations de la Terre furent posées par la grande loi? Cette même homogénéité de la matière et ce caractère immuable des lois naturelles que le matérialisme soutient avec tant d'insistance constituent un principe fondamental de la philosophie occulte. Mais cette unité est basée sur l'inséparabilité de l'esprit et de la matière. Et si l'on venait à les séparer, le cosmos tout entier retomberait dans le chaos et le non-être. Il est donc absolument faux, et ce n'est qu'une preuve de plus de l'infatuation de notre époque, de prétendre, comme le font les savants, que toutes les grandes transformations géologiques et les terribles convulsions du passé ont été produites par les forces physiques ordinaires et connues. Ces forces ne furent en effet que les instruments et moyens finaux pour l'accomplissement de certains desseins, agissant périodiquement et en apparence mécaniquement, en obéissant à une impulsion interne qui est mêlée à leur nature matérielle, mais qui a sa place au-delà. Tout acte important dans la nature a un but, et ces actes sont tous cycliques et périodiques. Mais comme on a généralement confondu les forces spirituelles avec celles qui sont purement physiques, l'existence des premières est niée par la science, et il s'ensuit que, n'étant pas étudiées, elles doivent lui rester inconnues. Note. Les savants diront « nous nions parce que rien de ce genre ne s'est jamais manifesté dans le champ de nos expériences ». Mais comme le fait remarquer le physiologiste Charles Richet, « soit, mais avez-vous au moins démontré le contraire ? En tout cas, ne niez pas a priori. La science n'est pas assez avancée pour vous en donner le droit. » Extrait de la suggestion mentale et le calcul des probabilités. Fin de note. Hegel dit, citation, l'histoire du monde commence par son but général, la réalisation de l'idée de l'esprit, seulement sous une forme implicite, c'est-à-dire comme nature. Un instinct inconscient est très profondément caché, et tout le processus de l'histoire tend à transformer cette impulsion inconsciente en une impulsion consciente. Se manifestant ainsi sous forme de la simple existence naturelle, la volonté naturelle, ce que l'on a appelé le côté subjectif, les appétits physiques, l'instinct, les passions, les intérêts privés, de même que l'opinion et la conception subjective, se présentent spontanément dès le début. Ce vaste ensemble de volitions, d'intérêts et d'activités constitue l'instrument et les moyens qu'emploie l'esprit du monde pour atteindre son but, l'amener à la conscience et qu'il le comprenne. Ce but n'est autre que celui de se trouver, de venir à soi-même et de se contempler en réalité concrète. Mais que ces manifestations de vitalité de la part d'individus et de peuples, par lesquels ils cherchent à satisfaire leurs propres fins, soient en même temps des instruments et des moyens en vue d'atteindre un but plus vaste dont ils n'ont aucune connaissance, dont ils se rendent inconsciemment compte, cela peut être discutable, ou plutôt cela a été mis en doute. Sur ce point, j'ai exposé ma manière de voir dès le début et j'ai soutenu notre hypothèse, et notre croyance que la raison gouverne le monde et a par conséquent gouverné son histoire. Par rapport à cette existence indépendante, universelle et substantielle, tout est subordonné, soumis et sert de moyen à son développement. Extrait de Lecture on the Philosophy of History. Fin de citation. Aucun métaphysicien ou théosophe ne pourrait mettre en doute ces vérités qui font toute partie des enseignements ésotériques. Il existe une prédestination en ce qui concerne la vie géologique de notre globe, comme en ce qui concerne l'histoire passée et future des races et nations. Cela se rattache étroitement à ce que nous appelons karma et à ce que les panthéistes occidentaux appellent némésis et cycle. La loi de l'évolution nous entraîne actuellement le long de l'arc ascendant de notre cycle, jusqu'au moment où les effets se fondront une fois de plus dans les causes, aujourd'hui neutralisées, se confondront avec elles, et où tout ce qui aura été affecté par ces effets aura recouvré son harmonie primitive. Ce sera le cycle de notre ronde particulière, un simple moment par rapport à la durée du grand cycle ou Mahayuga. Les remarques philosophiques si belles d'Hegel trouvent leur application dans les enseignements de la science occulte qui nous montrent la nature agissant toujours en vue d'atteindre un but déterminé dont les résultats sont toujours doubles. Nous l'avons fait remarquer dans nos premiers ouvrages occultes dans les termes suivants, citation extrait d'Isis dévoilée, tome 1, « De même que notre planète accomplit annuellement une révolution autour du Soleil et tourne en même temps autour de son axe une fois par 24 heures, parcourant ainsi des cycles mineurs au cours d'un cycle plus grand, de même l'œuvre des cycles inférieurs s'accomplit et recommence durant le cours du Grand Saros. La révolution du monde physique, suivant la doctrine antique, est accompagnée par une révolution similaire dans le monde de l'intellect, l'évolution spirituelle du monde procédant par cycle comme l'évolution physique. Nous constatons donc, dans l'histoire, une alternance régulière de flux et de reflux dans la marée du progrès humain. Les grands royaumes et empires du monde, après avoir atteint le point culminant de leur grandeur jusqu'au moment où ayant atteint le point le plus bas, l'humanité s'affirme et monte une fois de plus, et le degré de développement qu'elle atteint est en vertu de cette loi de progression ascendante par cycle, un peu plus élevé que celui qu'elle avait atteint et d'où elle était descendue. » Fin de citation. Pourtant, ces cycles, ces roues emboîtées l'une dans l'autre si clairement et si ingénieusement symbolisées par les divers manus et rishis de l'Inde et par les kabirs de l'Occident, n'affectent pas toute l'humanité en même temps. Note. Ce symbolisme n'empêche pas que ces personnages qui semblent aujourd'hui être des mythes n'aient gouverné la Terre à un moment donné, sous la forme humaine d'êtres réellement vivants, tout en étant vraiment des hommes divins ressemblant à des dieux. L'opinion du colonel Valençay, comme celle du comte de Gébelin, que les noms des kabiris paraissent être allégoriques et n'avoir jamais eu que la signification d'un almanach des vicissitudes des saisons calculées en vue des opérations de l'agriculture, est aussi absurde que son affirmation qu'Éon, Chronos, Saturne et Dagon ne représentent qu'une seule personne, qui serait le patriarche Adam. Les kabiris furent les instructeurs de l'humanité en agriculture parce qu'ils étaient les régents des saisons et des cycles cosmiques. C'est pour cela que ce furent eux qui réglèrent, en qualité d'esprit planétaire ou d'ange, messager, les mystères de l'art de l'agriculture. Fin de note. De là vient, comme nous le voyons, la difficulté qu'il y a à les comprendre et à les distinguer entre eux, en ce qui concerne leurs effets physiques et spirituels, avant d'avoir complètement saisi les rapports qu'ils ont avec les situations respectives des nations et des races, et l'action qu'ils ont sur elles, dans leur destinée et leur évolution. Ce système ne peut être compris si l'action spirituelle de ces périodes, en quelque sorte fixée d'avance par la loi karmique, est séparée de leur cours physique. Les calculs des meilleurs astrologues échoueraient, ou du moins resteraient imparfaits, à moins qu'ils ne tinssent complètement compte de cette double action et ne la comprissent de cette façon. Or, cette complète connaissance ne peut être obtenue que par l'initiation. Le grand cycle comprend les progrès de l'humanité depuis l'apparition de l'homme primordial aux formes éthérées. Il suit, à travers les cycles intérieurs, l'évolution progressive de l'homme, depuis l'homme éthéré jusqu'à l'homme semi-éthéré et purement physique, jusqu'à la rédemption de l'homme de son vêtement de peau et de matière. Après quoi il poursuit son cours descendant puis ascendant pour atteindre le point culminant d'une ronde, alors que le serpent Mandvantarik avale sa queue et que les 7 cycles mineurs se sont écoulés. Ce sont les grands cycles de race qui affectent également toutes les nations et tribus comprises dans cette race spéciale. Mais il y a, au cours de ceux-ci, des cycles mineurs ou nationaux comme aussi des cycles de tribus qui suivent leur propre cours indépendamment les uns des autres. L'ésotérisme oriental leur donne le nom de cycle karmique. En Occident, où l'on a répudié la sagesse païenne comme issue des puissances des ténèbres et développée par elles, et où l'on considère celle-ci comme en conflit permanent et en opposition constante avec le petit dieu tribal Jéhovah, la signification complète et redoutable de la némésis grecque ou karma a été complètement oubliée. Sans cela, les chrétiens auraient mieux compris à quel point il est vrai que Némésis est sans attribut. Ils auraient compris que si cette déesse redoutée est absolue et immuable en tant que principe, c'est nous-mêmes, nations et individus, qui la faisons agir et lui imprimons sa direction. Karma Némésis est le créateur des nations et des mortels, mais une fois qu'ils sont créés, ce sont eux qui en font soit une furie, soit un ange qui récompense. Oui, sages sont ceux qui rendent culte à Némésis. Il serait plus juste de dire qu'ils craignent Karma Némésis, comme dit le cœur à Prométhée, et peu sages ceux qui pensent que la déesse peut être rendue propice par des sacrifices et des prières, et que sa roue peut être détournée de la voie sur laquelle elle est engagée. Les trois parques et les furies toujours attentives ne constituent ses attributs que sur terre et ont été engendrés par nous. Il n'y a pas de retour possible des voies qu'elle a parcourues, mais ces voies sont notre œuvre et c'est nous qui collectivement ou individuellement les préparons. Karma Némésis est le synonyme de providence, moins l'intention, la bonté et les autres attributs et qualificatifs limitatifs qu'on lui attribue d'une manière si peu philosophique. Un occultiste ou un philosophe ne parlera pas de la bonté ou de la cruauté de la providence, mais, tout en l'identifiant à Karma Némésis, il n'en enseignera pas moins qu'elle protège les bons et veille sur eux durant cette vie, comme durant des vies futures, et qu'elle punit celui qui fait le mal, oui même jusqu'à sa 7e renaissance, tant que l'effet qu'il a produit en semant la perturbation, même au sein du plus petit atome du monde infini de l'harmonie, n'a pas été réajusté. L'unique décret de Karma, un décret éternel et immuable, c'est en effet l'harmonie du monde de la matière, comme elle est dans le monde de l'esprit. Ce n'est donc pas karma qui récompense ou punit, mais c'est nous qui nous récompensons ou nous punissons, suivant que nous agissons avec la nature, dans la nature et selon la nature, en obéissant aux lois dont cette harmonie dépend, ou que nous les violons. Les voies de karma ne seraient pas impénétrables si les hommes faisaient présider l'union et l'harmonie à leurs travaux, au lieu d'y mêler la désunion et la lutte. Notre ignorance de ces voies, qu'une partie de l'humanité appelle les voies de la Providence, sombres et inextricables, tandis qu'une autre y voit l'action du fatalisme aveugle, et une troisième le simple hasard sans aucun dieu ni démon pour le guider. Notre ignorance, dis-je, disparaîtrait sûrement si nous voulions seulement les attribuer à leur véritable cause. Avec la vraie connaissance, ou tout au moins avec une conviction pleine de confiance que nos voisins ne cherchent pas plus à nous nuire que nous ne songerions nous-mêmes à leur faire du mal, les deux tiers des maux de ce monde s'évanouiraient dans les airs. Si aucun homme ne faisait du mal à son prochain, Karma Némésis n'aurait aucune raison pour agir ni aucune arme pour le faire. C'est la présence continuelle au milieu de nous des éléments de lutte et d'opposition, la division des races, des nations, des tribus, des sociétés et des individus en Caïn et en Abel, en loup et en brebis, qui constitue la cause principale des voies de la Providence. C'est journellement et de nos propres mains que nous traçons le cours sinueux de nos destinées, alors que nous nous imaginons poursuivre notre chemin sur la grande route royale de la respectabilité et du devoir, et nous nous plaignons de ce que ces détours sinueux soient si compliqués et si sombres. Nous restons saisis en présence du mystère qui est notre œuvre et des énigmes de la vie que nous ne voulons pas résoudre, puis nous accusons le grand sphinx de nous dévorer. En vérité, il n'y a pas un accident dans notre vie, pas un mauvais jour ou une infortune dont on ne puisse faire remonter la cause à nos propres agissements dans cette vie ou dans une autre. Si l'on trouble les lois de l'harmonie ou suivant l'expression d'un écrivain théosophe, les lois de la vie, on doit s'attendre à tomber dans le chaos qu'on a créé. En effet, d'après le même auteur, citation, « la seule conclusion à laquelle on puisse arriver, c'est que ces lois de la vie se vengent elles-mêmes et par suite que tout ange vengeur n'est que le symbole typique de leur réaction. » Fin de citation. Par conséquent, si quelqu'un est désarmé en présence de ces lois immuables, ce n'est pas nous, auteurs de nos destinées, mais plutôt ces anges gardiens de l'harmonie. Karma Némésis n'est pas autre chose que l'effet dynamique spirituel de causes produites et de forces mises en activité par nos propres actes. C'est une loi de la dynamique occulte qu'une quantité donnée d'énergie employée sur le plan spirituel ou le plan astral produit infiniment plus d'effets que la même quantité employée sur le plan physique de l'existence objective. Cet état de choses durera jusqu'au moment où l'intuition spirituelle de l'homme sera pleinement développée, et cela n'arrivera pas avant que nous ne soyons débarrassés, en grande partie, de notre épaisse enveloppe de matière, avant que nous ne commencions à agir suivant l'impulsion interne au lieu de toujours obéir aux impulsions externes, impulsions qui sont dues à nos sens physiques et à notre corps grossier et égoïste. Jusqu'à ce moment, les seuls palliatifs des maux de la vie seront l'union et l'harmonie, une fraternité in actu et de l'altruisme qui ne soit pas simplement nominal. La suppression d'une seule mauvaise cause supprimerait non pas un, mais de nombreux mauvais effets, et si une fraternité, ou même un certain nombre de fraternités, ne suffisent pas à empêcher les nations de se couper mutuellement la gorge à l'occasion, l'unité de pensée et d'action et les recherches philosophiques opérées dans les mystères de l'être empêcheront pourtant toujours quelques personnes, parmi celles qui cherchent à comprendre ce qui jusque-là est resté pour elles une énigme, de générer des causes additionnelles de malheur dans un monde si plein de souffrances et de maux. La connaissance de karma donne la conviction que, si la détresse de la vertu et le triomphe du vice rendent l'humanité athée, c'est uniquement parce que l'humanité a toujours fermé les yeux à cette grande vérité que l'homme est lui-même son propre sauveur et son propre destructeur. Il n'a pas à accuser le ciel et les dieux, le destin et la providence de l'apparente injustice qui règne au sein de l'humanité. Qu'il se rappelle et répète plutôt ce fragment de la sagesse de la Grèce qui recommande à l'homme de s'abstenir d'accuser cela qui, juste, bien que mystérieux, nous conduit infailliblement, par des voies non tracées, de la faute au châtiment. Et c'est actuellement par des voies de ce genre que les grandes nations européennes poursuivent leur marche en avant. Toutes les nations et toutes les tribus des Aryens occidentaux, tout comme leurs frères orientaux de la cinquième race, ont eu leur âge d'or et leur âge de fer, leur période d'irresponsabilité relative, ou leur période satya de pureté, et maintenant plusieurs d'entre elles ont atteint leur âge de fer, le Kali Yuga, une période noire d'horreur. D'autre part, il est vrai que les cycles exotériques de toutes les nations ont été déduits, avec raison, des mouvements sidéraux, et c'est à juste titre que l'on a démontré qu'ils dépendaient d'eux. Ces mouvements sidéraux sont inséparablement mêlés aux destinées des nations et des hommes. Pourtant, au sens purement physique du mot, l'Europe ne connaît aucun cycle en dehors des cycles astronomiques et elle établit ses calculs en conséquence. Elle ne veut, en outre, entendre parler que de cercles ou circuits imaginaires dans les cieux étoilés qui les entourent, d'un griffonnage de cycles et d'épicycles, d'orbites dans des orbites centriques et excentriques. Pourtant, pour les païens, au sujet desquels Coleridge dit avec raison, le temps cyclique constituait leur abstraction de la divinité, divinité qui se manifestait au même degré que karma et uniquement par karma et qui était cette même karma némésis, les cycles représentaient quelque chose de plus qu'une simple succession d'événements ou qu'une durée périodique plus ou moins longue. En effet, ils étaient généralement signalés par les retours d'un caractère plus varié et plus intellectuel que ceux qui se manifestent lors des retours périodiques des saisons ou de certaines constellations. La sagesse moderne se contente des computations et des prophéties astronomiques basées sur des lois mathématiques infaillibles. La sagesse antique ajoutait à la froide enveloppe astronomique les éléments vivifiants de son âme et de son esprit, l'astrologie. Or, comme les mouvements sidéraux régissent et déterminent réellement sur Terre des événements, autres que ceux qui concernent la pomme de terre et les maladies périodiques de cet utile tubercule, affirmation qui n'étant pas susceptible de démonstration scientifique est simplement tournée en dérision, tout en n'étant pas moins acceptée. Ces événements doivent se soumettre à une prédétermination basée sur de simples calculs astronomiques. Les fidèles de l'astrologie comprendront ce que nous voulons dire, les sceptiques riront de la croyance et se moqueront de l'idée, se bouchant ainsi les yeux, à l'instar des autruches pour ne pas voir leur propre destinée. Note. Pas tous, cependant, car il y a des savants qui s'éveillent à la vérité. Voici ce que nous lisons. De quelque côté que nous tournions nos yeux, nous rencontrons un mystère. Tout dans la nature nous est inconnu. Pourtant, ils sont nombreux, ces esprits superficiels pour lesquels les forces naturelles ne peuvent rien produire en dehors des faits déjà observés depuis longtemps, consacrés par des livres et groupés plus ou moins habilement à l'aide de théories dont la durée éphémère devrait aujourd'hui avoir démontré l'insuffisance. Je ne prétends pas contester la possibilité de l'existence d'êtres invisibles, d'une nature différente de la nôtre, et capable de mettre la matière en activité. De profonds philosophes ont admis cela à toutes les époques, comme une conséquence de la grande loi de continuité qui gouverne l'univers. Cette vie intellectuelle, que nous voyons jaillir en quelque sorte du néant et atteindre graduellement l'homme, peut-elle s'arrêter brusquement à l'homme pour ne reparaître que dans l'infini, dans le souverain régulateur du monde ? C'est peu probable. Aussi, je ne nie pas plus l'existence des esprits que je ne nie l'âme, tout en cherchant cependant à expliquer certains faits sans le recours de cette hypothèse. Extrait de « Les forces non définies, recherches historiques et expérimentales » par Aude Rochas, homme de science bien connu en France et dont le travail est un signe des temps. Fin de la note. Cela est dû à ce que leur petite période historique, comme on l'appelle, ne leur laisse aucune marge pour la comparaison. Le ciel étoilé est devant eux, et bien que leur vue spirituelle ne soit pas encore active, bien que la poussière atmosphérique d'origine terrestre arrête leur vue et l'enchaîne dans les limites des systèmes physiques, ils n'en perçoivent pas moins les mouvements des météores et des comètes, et n'en notent pas moins le comportement. Ils enregistrent les retours périodiques de ces messagers flamboyants et vagabonds et prophétisent en conséquence les tremblements de terre, les pluies de météores, l'apparition de certaines étoiles ou comètes, etc. Sont-ce donc des sorciers, après tout ? Non, ce sont de savants astronomes. Pourquoi donc les occultistes et les astrologues, qui sont aussi savants que ces astronomes, ne seraient-ils pas crus lorsqu'ils prophétisent le retour d'un événement cyclique d'après les mêmes principes mathématiques ? Pourquoi rirait-on quand ils affirment savoir que ce retour doit avoir lieu ? Leurs ancêtres et prédécesseurs ayant noté le retour de semblables événements, durant une période qui embrasse des centaines de mille ans, la conjonction des mêmes constellations doit nécessairement produire, sinon le même effet, à tout le moins un effet similaire. La prophétie doit-elle être tournée en ridicule parce qu'elle affirme se baser sur des centaines de mille ans d'observations et sur des millions d'années des races humaines ? La science moderne n'est-elle pas ridiculisée à son tour par ceux qui s'en tiennent à la chronologie biblique pour ses chiffres géologiques et anthropologiques infiniment plus modestes ? Ainsi, karma équilibre même les railleries humaines aux dépens des sectes, des sociétés savantes et des individus. Pourtant, la prédiction d'événements futurs, de ce genre au moins, prédiction toujours basée sur des retours cycliques, n'implique aucun phénomène psychique. Ce n'est ni de la prévision ni de la prophétie, pas plus que ne le serait le fait d'annoncer la venue d'une comète ou d'une étoile plusieurs années avant son apparition. C'est simplement le savoir, allié à de corrects calculs mathématiques, qui permet aux sages de l'Orient de prédire, par exemple, que l'Angleterre est à la veille de subir telle ou telle catastrophe, que la France approche de tel ou tel point de son cycle, et que l'Europe en général est menacée, ou plutôt est à la veille d'un cataclysme, vers lequel elle a été poussée par son propre cycle karmique racial. L'opinion que nous avons sur le degré de confiance que l'on peut accorder à ces renseignements varie naturellement suivant que nous admettons ou que nous repoussons l'affirmation qu'ils sont basés sur une formidable période d'observations historiques. Les initiés de l'Orient affirment qu'ils ont enregistré le développement de la race et les événements d'importance universelle depuis le commencement de la quatrième race. Ce qu'ils savent des événements qui se sont passés durant l'époque précédente n'était basé que sur des traditions. De plus, ceux qui croient à la clairvoyance et aux pouvoirs occultes ne verront aucune difficulté à ajouter foi aux informations données, dans leurs grandes lignes au moins, même si elles ne sont basées que sur des traditions, dès l'instant que cette tradition sera contrôlée par la clairvoyance et le savoir ésotérique. Mais dans le cas qui nous occupe, nous ne réclamons aucune croyance métaphysique de ce genre, car la preuve est fournie, d'une façon équivalente, pour tous les occultistes, à l'évidence scientifique, par les archives conservées au moyen du zodiaque depuis des temps incalculables. Il est aujourd'hui amplement démontré que les horoscopes et l'astrologie judiciaire elle-même ne sont pas complètement basés sur des fictions, et par conséquent que les étoiles et les constellations ont une influence occulte et mystérieuse sur les individus et de mystérieux rapports avec eux. S'il en est ainsi pour les individus, pourquoi n'en serait-il pas de même pour les nations, les races et l'humanité en général? Ce postulat est basé aussi sur les archives zodiacales, et nous allons maintenant rechercher jusqu'à quel point le zodiaque était connu des anciens, et jusqu'à quel point il est oublié par les modernes.